DW.
Pour moi, c'est une manipulation de l'histoire, pour deux raisons. Il veut se créer une légende. Il a travaillé depuis quelques années sur une légende où il transforme tout ce que nous connaissons. Il veut se faire passer d'un clan qui serait un clan de la famille royale. Et c'est très important de ne pas isoler cet acte de tout le reste qu'il a déjà fait. Ma lecture, c'est qu'il veut quelque chose de plus haut que ça. Il veut réinstaurer un royaume, mais un royaume qui sera réécrit, évidemment, à la sauce qu'il aura lui-même choisie. Mais il fait tout ça en éloignant ceux qui le dérangent, mais il essaye de rassembler le reste de la population autour de lui par ces deux manipulations.
Vous êtes vous-même petite fille d'un des rois du Burundi, le roi Mwambutsa IV, qui a régné jusque dans les années 60. Vous êtes également la nièce du prince Louis Rwagasore, qui donnait son nom au stade qui va être débaptisé. Ce n'est pas l'amertume de voir ce nom retiré qui vous fait parler?
Oh, absolument pas. Moi, je regarde, j'observe ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas du tout l'amertume. L'histoire est l'histoire, vous savez. Les Burundais ne sont quand même pas à ce stade où ils vont oublier ce passé.
Mais tout de même, c'est un symbole fort que de rebaptiser une avenue boulevard général Adolphe Nshimirimana, qui était le chef des services secrets du régime Kurundiza, qui a été assassiné en août 2015. Or, cette avenue, elle traverse justement deux quartiers de la capitale qui sont réputés pour être des fiefs de l'opposition et où il y a eu une répression brutale.
Mais comme je vous dis, je pense que Nkurunziza ne fait absolument rien par hasard. Et la population est terrorisée de toute façon. Et tous les jours, il veut dire, voilà, de toute façon, c'est moi qui suis là, c'est moi qui suis fort et je fais ce que je veux comme je veux. Ce qui me rassure, c'est que je sais que les Burundais n'accepteront pas. Il peut le faire pendant un temps. Ça peut durer un an, deux ans, trois ans, même si c'était 10 ans. Mais ce qui est certain, c'est que les Burundais ne peuvent pas accepter ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Les Burundais n'oublient pas qu'ils sont en train de mourir de faim. Les Burundais n'oublient pas qu'ils ne peuvent plus se faire soigner. Les Burundais n'oublient pas que tous les jours, on est en train de les rançonner. Il peut changer tout ce qu'il veut, ça peut lui faire plaisir. Il ne voit pas la réaction des gens parce qu'ils sont terrorisés. Les Burundais n'oublient pas que les prisons sont remplies de personnes innocentes qui n'ont eu que le tort de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique qui est menée. Ça, ils ne l'oublient pas.
Cette semaine, la commission d'enquête sur les droits de l'homme au Burundi, qui est dirigée par Doudou Diène, mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a encore une fois déploré la restriction des libertés individuelles, le rétrécissement du champ démocratique, je crois que ce sont les termes employés par les rapporteurs. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous attendez ou est-ce que vous attendez davantage ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale? Parce qu'on a l'impression que le Burundi n'est plus tellement à la une de l'actualité.
Il y a une forme de cécité qui s'installe et c'est peut-être par facilité. Et d'ailleurs, je profite comme on est à la veille, il y a le Conseil de l'Union africaine qui commence aujourd'hui à Niamey. Et la première communauté internationale à laquelle je pourrais m'adresser, c'est la région. Nous avons dans la région les chefs de l'État de la région qui ferment les yeux comme s'ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer à côté. Mais une chose est claire, ce que Nkurunziza est en train de faire aura des répercussions dans la région et a déjà des répercussions dans la région. Donc ils ne peuvent pas fermer les yeux sur ce qui est en train de passer. Ils vont devoir prendre à un moment donné une décision.
Il y a eu une tentative de médiation sous l'égide de Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, une médiation de l'EAC.
Il y a eu une tentative et Nkurunziza, avec beaucoup d'arrogance, n'a jamais répondu à aucune des invitations à négocier qui lui a été présentée. Donc ça ne peut pas s'expliquer qu'on laisse juste tourner la page et qu'on le laisse continuer alors que le traité de l'EAC prévoit qu'en cas de problème à l'interne, la meilleure façon, c'est de passer par des négociations. Le Conseil des Nations Unies aussi, le dernier conseil qu'il y a eu, il y a eu des rapports, certains veulent faire passer comme s'il y avait une paix. Non, il n'y a pas de paix au Burundi. Il y a une terreur qui s'installe. Mais vraiment, le premier appel, c'est à l'Union africaine qui se réunit pendant ces 3 jours et surtout de donner les moyens à la région qui a essayé, mais s'il n'y arrive pas, l'Union africaine doit reprendre le dossier en main et se charger de trouver une solution pérenne pour le Burundi.
Est-ce que peut-être vous pourriez dire un mot de votre association Mémoire commune, Avenir commun?
L'idée, c'est que nous apprenions à résister à tout ce qui nous mène toujours vers ces violences qu'on vit tous les 10 ans depuis l'indépendance. En espérant que si nous nous mettons ensemble, je précise que l'association Mémoire, c'est les mémoires avec S. Il est hors de question de venir parler d'une seule mémoire comme on a tendance de le faire, c'est toujours un côté ou l'autre. Nous avons plusieurs histoires. Il faut qu'on se mette ensemble, chacun raconte son histoire, on n'a pas à contredire l'autre, on sort de ce conflit des mémoires et plutôt aller vers une convergence des mémoires, mais avec l'objectif que ça ne recommence plus, qu'on puisse réagir avant qu'on ne tombe dans les violences et les massacres comme on le fait régulièrement depuis l'indépendance.
Aline Denzaco, un grand merci.
Merci à vous.